patrouille, pas de patrouille. Et ils repartent en vadrouille. Dès qu'il y a un souci dans la grande vallée, Ryder et les chiots, ses amis, viendront s'en occuper. Marcus, Ruben, Chase, Rocky, Zuma, Stella, yeah, ils vont arriver. Pas de patrouille.
Est-ce que la Pat Patrouille et Spin Masters vont souffrir de la débâcle des Toys R Us?
Oui, Paul, quand t'entends le jingle comme ça, t'entends les dollars couler, Paul. Spin Masters a beau créer de bons jouets et des publicités implicites dans ses comics, si tu veux, il demeure pas moins que ça prend un réseau de distribution. Et là, quand Toys R Us a de la misère, ben ça a un impact sur Spin Masters. Écoute, dans le trimestre, bien qu'on a vendu, écoute, pour 286 millions de dollars de jouets, on a quand même un bénéfice net de 8,7 milliards, mais c'est en baisse, Paul, parce qu'on avait 10 milliards au dernier trimestre équivalent l'an passé, au même trimestre équivalent l'an passé. Et où se trouve la différence, Paul? On nous dit en note aux états financiers, 15 152 000 ont été pris en provision pour les déboires de Toys R Us, donc pour provisionner ce problème-là. Et tout va dans les dépenses administratives. Parce que, Paul, ce qui est drôle, c'est que la recette du fabricant de jouets, là, c'est simple. Nouveau personnage, la Pat Patrouille, c'est un exemple. Nouveau lieu, on met une jungle, on met un territoire enneigé. Nouveaux équipements, les chiens ont toujours des nouveaux équipements, donc des nouveaux jouets. Et on fait différentes gammes de formats de jouets. Des figurines fixes, des figurines amovibles, des plus grands formats et des équipements pour rentrer toutes ces figurines-là. Donc, on se dit que même si on produit beaucoup de jouets, la baisse de Toys R Us va être répartie de toute façon prochainement partout dans le marché et qu'on va perdre à peu près 10% là, lié à ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir 90% qui va être redistribué dans d'autres réseaux de distribution. Et Paul, quand on use un comic, on n'use pas à peu près. On fait des casse-têtes, des activités, mais on fait aussi des télécommandes, des caractères interactifs, on fait des jouets d'action, on fait des jouets pour aller dehors, on fait même, il y a une catégorie qui s'appelle aussi Preschool and Girls, donc des jouets préscolaires et féminins. Mais là, on s'appelle, c'est des jouets genrés, ce qui est très tellement sexiste, là, mais on a fait ça dans la catégorie.
Ouais.
Et on démontre, dans le fond, que les 288 millions sont dans plusieurs catégories, mais que ça génère ces dessins animés-là génèrent des revenus.
Des produits dérivés aussi, comme exactement. Tu viens de mentionner. Alors, ça prend, comme on disait, un réseau de distribution important. Et de plus en plus, ce réseau de distribution idéal, c'est le cybercommerce.
Exactement.
Et c'est une lutte à finir entre deux titans, entre deux géants. On n'a pas fini de s'en parler, d'ailleurs. Aujourd'hui, Walmart a déplacé un pion, plus qu'un pion, probablement plus qu'un cavalier. Une acquisition de 16 milliards aujourd'hui pour Walmart.
Quasiment une reine, Paul. 77% du contrôle de Flipkart. Écoute, on va chercher le marché indien. Et on sait que c'est un marché en croissance. C'est soutenu, évidemment, par un investissement supplémentaire qu'on va faire de 2 milliards, donc, dans l'entreprise. Flipkart a généré 4,6 milliards de dollars de ventes nettes au cours de l'année fiscale qui est passée. Donc, c'est beaucoup de ventes. Et là, Walmart, dans le fond, quand tu regardes les états financiers, tu comprends l'acquisition. Parce que de 2016 à 2018, oui, on augmente le chiffre d'affaires, mais on diminue les profits. Pourquoi? Parce que chaque vente coûte plus cher. Donc, la ligne cost of sales n'arrête pas de monter, mais aussi les frais de vente et d'administration. Pourquoi? Mais parce qu'on subventionne les clients en voulant développer en ligne et développer en magasin, Paul. On se retrouve à payer. Tu sais, avant, le client, qu'est-ce qu'il faisait? Il se déplaçait chez Walmart,
oui.
Transportait sa personne et les objets vers chez lui. Dans une place centrée, un seul point de livraison, quand on dit « je vais avoir deux sacs de couches livrés à la maison sans frais supplémentaires », on gruge de la marge. Et c'est ces joueurs-là qu'on va chercher chez Walmart. On fait l'inverse d'Amazon qui dit « nous, on est en ligne, on va aller chercher les joueurs qui sont parfois sur Terre, on va s'implanter ». Walmart fait l'inverse, on va aller chercher des gens en ligne. Mais on vient de faire mal. 16 milliards d'acquisitions, on a pris un joueur qu'Amazon aurait voulu sûrement coopter, c'est prendre dans son entreprise.
Et on va terminer avec une statistique un peu inquiétante. 3,5 millions de Canadiens se sentent concernés, sont dans la mire des hausses de taux d'intérêt.
Oui, il y a 3,4 millions de Canadiens qui sont dans ce qu'on appelle en anglais les subprimes, donc les prêts à risque. Donc, ce sont des clients qui ne sont pas des clients préférentiels et pour qui une variation de taux a un impact majeur. Donc, sur 28,4 millions de Canadiens qui sont actifs avec le crédit, c'est-à-dire qu'ils prennent du crédit pour consommer, pour exister, 11,9 tombent dans la catégorie subprime, donc à risque, selon TransUnion. Donc, on s'intéressera à quoi comme données ou donner des paiements non faits après 90 jours. Donc, les paiements en délinquance de plus de 90 jours dans les prochains mois pour voir quel sera l'impact des hausses de taux directeurs tranquillement pas vite sur cette clientèle-là. Et pendant ce temps-là, Paul, BMO fait une guerre à court terme sur les taux d'intérêt variables 5 ans en présentant un taux de 2,45.
Donc,
imagine, tu peux négocier ton hypothèque à 2,45 maintenant ou 5 ans fixe à 3,29-3,30 et là, tu as le choix entre les deux. Alors, la réflexion est la suivante. Si BMO t'offre 2,45 et puis que les multiples de ce monde ou les hypothécaires, donc les courtiers, t'offrent 2,36-2,40 comme bon client, faut que tu te poses la question, est-ce que je suis mieux signé variable et pendant 2 ans payer beaucoup moins que le taux fixe?
Oui.
Ou de payer un peu plus avec les hausses de taux?
Oui.
Ou prendre le choix que le taux fixe reste fixe puis soit gagnant à long terme parce que le taux variable va beaucoup augmenter.
Donc, le pari
du taux variable base sur 5 ans, c'est de te dire, je vais profiter pendant plus de 2 ans, par exemple, d'un taux en bas du taux fixe actuel. Et même si je dépasse après ça le taux fixe actuel que je peux négocier, j'aurai quand même profité pendant 2 ans d'un taux inférieur au taux fixe négocié.
C'est sûr.
Et pendant 2 ans, je paierai plus, puis au net, je serai pas pire, tu sais.
Oui, mais ça dépend de ton interprétation, ton niveau de risque.
Oui, ta
capacité
qu'il y a
des
à
gens,
payer plus.
Oui, exactement. Il y a des gens qui veulent dire, moi, j'aime mieux barrer ça avec un cadenas pour 5 ans.
Il n'y a pas juste ça, c'est dépendant qui tu es. La banque te fait pas le même taux. Donc là, je donne les meilleurs taux du marché. Mais là, ça, c'est le taux qu'ils présentent. Puis là, toi, t'arrives chez la banque puis tu dis, ah, j'ai vu que vous aviez un 2,45 variable. Ah oui, mais ça, c'est pour nos bons clients. Comment ça, je suis pas un bon client? Ben, je vois dans votre dossier ici que votre score de crédit est plus faible. Donc, vous tombez un peu moins rentable. On vous offre 2,9. À ta minute, là. Tu affiches 2,45, ça, c'est pour les bons clients. Donc, tu vois un peu la nuance. Et on va plus loin. Dans le taux 5 ans, mettant en fixe, comme on parlait hier, là, t'as une augmentation du taux de référence avant négociation. Donc là, en plus d'avoir ton taux très négocié à court terme, tu te retrouves avec des prêts à long terme dont le taux de référence est plus élevé. Et là, il y a beaucoup de gens qui se demandent « qu'est-ce que je vais faire? » C'est un dossier très intéressant à suivre.
Oui, absolument. Merci, Pierre.
Salut.